J'ai pas le temps de faire dans la finesse, l'heure tourne. Mentalité hooligan comme à Liverpool. Besoin d'émeutes quand les faves sont la coule douce. J'déboule comme act up à la manif pour tous. J'ai pas le soin, ce sont des boîtes que je déteste. Mon problème c'est pas le voile mais le MEDEF. Chacun ses chefs mais sache que le rêve te coûte. Ce que la CAF m'accorde c'est le bénéf du doute. J'ai déjà plus de cartouches pour les US de bouche. Avant le mur t'as en rhume l'URSS te mouche. Laisse faire les Serge, la Youb et les SS te douche. Y'a même des rouges qui sortent sur le site F de souche. Le monde est fou, YouTube t'aura bien bousillé. Un arrière-goût de canoncier dans le gosier. Moi j'ai la nausée, Vichy c'est nostalgique. À vomir comme le roi Léopold de Belgique.
C'était 7, pas vrai? Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici?
Quand 7 est venu tout à l'heure, il m'a fait comprendre qu'un truc comme ça allait arriver.
Ce qui est badant, c'est les rêves que le FN caresse. Indépendant comme un canac du FLNKS. Terroriste hier, demain t'es glimoqué. Dissident ok, mais j'entends que des perroquets. J'aime pas le gris, mais je vois pas des juifs un peu partout. Juste des riches qui possèdent un manoir à Saint-Cloud. Moi j'en ai plein les couilles, comme Jésus ne ses clous. Comme un détenu défouillé, numéro des groupes. Et les gros sous, ça rentre trop sourd, la vie n'est pas trop court. Quand tout se résume à des coups, j'en ai plus rien à foutre. Des beaux discours dolents, tu trouves ça désolant. Ton isoloir nous que leur salaire mirobolant. On n'oublie pas que Brahim Bouaram est mort à l'eau. Alors la morale à deux balles des Nadine Morano. J'en ai rien à branler, lève ton majeur en l'air. 2017, Sarko voudrait nous la mettre à l'envers. Pour le bien de la patrie, nos sang coule au Mali. Pas d'alibi, j'étais pas Charlie ou Koulibaly. La presse est pleine de grosses cochonnes, genre Marine. Quand le PS récupère les tests de Jean-Marie. Moi ce que ma mère m'a dit, tu connaîtras la dèche. J'ai fait la diff comme le YPG face à Daesh. J'ai allumé la mèche, faire péter le manège. Gardez la pêche quand vient l'été, moi j'attends pas la neige.
C'était 7, pas vrai? Tu ne devrais ni le voir ni lui parler, c'est pas bon pour toi.
Quand 7 est venu tout à l'heure.
7, qu'est-ce qui se passe, bordel?
Alors tu trouves Marion Maréchal mignonne. Un coup de batte en aluminium.
Pompe en pleine tête.
Bonsoir, c'est Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et c'est l'émission Jeudi Noir avec Michel et José présentement, sans Jean-Mathias qui s'occupe de Ch'tine Enfant. Et puis là on vient d'écouter le rappeur 7 qu'on a passé très souvent dans cette émission. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va vous faire un marathon du livre, ça faisait très longtemps. Donc vous présenter un maximum de livres en une heure avec à chaque fois un petit morceau qui a un rapport. Alors là le rapport entre 7 et le bouquin que je vais vous présenter, les bouquins que je vais vous présenter, simplement que 7 a fait cette musique mais a également écrit 4 romans que j'ai adorés. Voilà, donc je vais vous faire une petite chronique hyper rapide comme d'habitude, on vous spoil pas, on fait juste des petits pitchs pour donner envie de lire. Donc Les Fleurs de Lazare, ça avait été publié en 2005, c'était un roman noir avec un jeune gars qui se retrouve tabassé, qui est recueilli par des mafieux russes et qui est embringué dans tout un tas d'aventures que je vous raconte pas parce que le roman est assez court. Bon esprit. Moi j'avais préféré celui d'après, Les Mains Pleines de Lumière, en 2019. Les trois romans d'après sont plus SF, c'est plus ma cup of tea. Donc une petite dystopie, Les Mains Pleines de Lumière, c'est un gars qui se réveille dans une zone irradiée qui est recueillie par une sorte de communauté utopiste, il lui arrive plein de choses. Merde. Alors pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème technique de musique qui tourne en même temps. Voilà, désolé, parce que là, comme on fait la tech et en même temps le truc, donc vous avez dû entendre une petite musique en fond de Ursula Le Guin qu'on passera tout à l'heure. Donc désolé pour le problème technique, j'espère que c'était audible quand même. Donc Les mains pleines de lumière de 7, et puis ensuite il a sorti Psychodrome en 2020. Cela aussi c'est de la SF un peu ubiquienne, un peu cadiquienne. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman sur un psy insomniaque qui va faire des tests dans un labo, et puis le labo, je raconte pas tout, mais elle envoie un petit peu dans l'espace et le temps. Il y a un rapport avec la télé-réalité. C'est assez rigolo, en fait. C'est assez drôle et en même temps effrayant. Et puis là, son dernier, c'est Magma en 2020 aussi. Ça se passe dans une station balnéaire où on voit un club genre all inclusive avec une artiste super hype et son fils un peu zikos qui bosse sur des vieux du matériel analogique dans un club de vacances et il y a des voisins de chambre qui font des manipulations mentales, des sortes de sectes bizarres sur fond de musique expérimentale. C'est vachement bien, je vous raconte pas tout. En tout cas, vous pouvez acheter ces bouquins sur le site rapandrevenge.com ou sur antimonde.com. Allez y jeter un œil, tous les liens seront sur le site de Gurdulu. Bon, bah, on repart avec le guin que vous avez peut-être déjà entendu en fond.
Vous écoutez Jeudi Noir 89.3, la radio de la
.4,
la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Ça fait très très longtemps que on a plus les réflexes. Et donc là, je vais vous parler d'un bouquin d'une autrice qu'on aime beaucoup, Ursula K. Le Guin, Terre Mère. Et c'est assez difficile à classer comme littérature. C'est une autrice américaine qui est morte très très récemment, à un âge très avancé, et qui avait écrit beaucoup de bouquins, dont un dont on aimerait énormément vous parler un jour, qui s'appelle Les Dépossédés, qui parle d'une planète anarchiste. Mais elle a aussi écrit beaucoup de choses qui pourraient s'apparenter à de la fantasy, dont un livre, un de ses livres les plus connus, qui s'appelle Terre-Mère. Terre-Mère en un seul mot, donc pas Terre-Mère comme voilà, notre mère la Terre, hein, mais... Et donc... qui parle de magie, de dragons, de tout un tas de choses comme ça. Et on se dit là, ben voilà, c'est du sous Tolkien, du sous ceci, du sous cela. Alors qu'en réalité, Ursula K. Le Guin arrive à produire un univers qui est complètement à part. Et c'est de la fantaisie, comment dire... C'est pas spectaculaire. C'est pas quelque chose qui va vous faire rêver avec des grandes batailles et des épées sorties des fourreaux contre de méchants orques.
C'est pas épique.
C'est pas épique pour dessous. C'est plutôt, comment dire, c'est plutôt quasiment une aventure, l'aventure intérieure d'un personnage qui de berger devient une espèce d'archimage, mais qui est pas pour autant, qui va pas se développer en quelque sorte. Voilà, c'est pas Dragon Ball Z avec ah mon Dieu, tu es au-dessus de 9000. C'est pas des personnages en quête de puissance du tout. C'est plutôt des personnages en quête de connaissance et de compréhension et de compréhension en quelque sorte de la vie elle-même. Et donc moi je vous le recommande chaudement parce que c'est beau. Tout simplement, et ça change, c'est original. Voilà, donc voilà pour Shirley K. Login, elle mériterait une émission à part, on la fera sans doute.
Liberté, on rêve de liberté. Bah, là encore, un morceau carrément en rapport avec le bouquin, puisque c'était Camera Silence. Camera Silence, groupe punk Oi, début 80. Le bouquin dont je vais vous parler, bah, c'est écrit par Gilles Bertin. Vous êtes toujours dans Jeudi Noir sur Radio Libertaire. Gilles Bertin, bah, c'était le chanteur bassiste de Camera Silence. Le morceau, c'était Sans Sursis. Et il a écrit un bouquin avant de décéder l'an dernier. On en avait déjà parlé sur cette antenne. Le bouquin s'appelle 30 ans de cavale, ma vie de punk, chez Robert Laffont, ce petit éditeur indépendant. Et donc, c'est sa vie, en fait. C'est une autobio, vraiment chouette, où ça parle du punk, de la drogue, des squats, du braquage, des braquages, mais surtout du braquage pour lequel il a dû partir en cavale pendant 30 ans, en Espagne, au Portugal, ouvrir un disquaire là-bas au Portugal, revenir en France, se livrer. Et il explique pourquoi il se livre au keuf à ce moment-là. On comprend mieux la maladie. C'est vraiment hyper émouvant, vrai document d'époque, et voilà, avec un personnage vraiment attachant. Il y a aussi un docu qui a été fait, filmé, quoi, un docu télé, quoi, qui s'appelle Punk, il était une fois Gilbertin, qui reprend le bouquin en un peu moins détaillé. Donc voilà, si vous avez vu le doc, ça vaut le coup de lire le bouquin. Voilà, à tout à l'heure.
Screaming in the middle of the night, felt a chill and had a terrible fright. Thought I saw a devil or an angel midnight. Was I wrong or was I right? Could it be me? I've been walking in my sleep, mumbling to myself, all the secrets that I keep. Was I wrong or was I right? Thought I saw a devil or an angel of the night. Thought I saw a devil or an angel of the night. Woke up screaming, had a terrible fright. Was I wrong or was I right? Thought I saw a devil or an angel of the night. Hope I'm wrong, but I know I'm right. Thought I saw a devil or an angel of the night. Hope I'm wrong, but I know I'm right.
Écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre No Means No, un groupe canadien inconnu qui est le meilleur du monde. C'était le morceau Angel or Devil, voilà, sorti de l'album The Worldhood of the World, la mondéité du monde, qui était une blague contre Heidegger. Voilà, et c'est Jeudi Noir.
Nazi.
Voilà, Heidegger, le vilain nazi. Et donc, qui mérite bien qu'on se moque de lui.
Et là, je voulais vous parler, j'ai
30 secondes, il y a José qui me menace de couper, voilà, pour un bouquin qui a été écrit en collaboration par Terry Pratchett et Neil Gaiman. Donc Terry Pratchett, je suppose que de nombreux auditeurs et auditrices connaissent un petit peu le bouquin, enfin l'auteur, puisqu'il est mort récemment et c'est l'immortel auteur du Disque Monde. Un univers médiéval fantastique qui se déroule sur un monde plat qui est posé sur quatre chameaux qui eux-mêmes sont posés sur une tortue qui va quatre éléphants posés sur une tortue et donc c'est un auteur de assez comique. Vous avez tout un tas de romans que vous pouvez presque les prendre au hasard, à chaque fois c'est très très drôle. Quant à Neil Gaiman, c'est un scénariste aussi beaucoup, et il a écrit American Gods, qui a été adapté en série, je crois. Et donc c'est aussi un auteur qui vaut le coup, je pense. J'ai plus lu Pratchett, mais Gaiman c'est bien aussi. Et ils ont écrit ensemble un bouquin qui s'appelle Good Omens, qui s'appelle De bons présages, et qui raconte l'apocalypse. Vous avez un ange et un démon qui sont installés sur Terre pour faire leur taf de démon et d'ange, mais ça fait longtemps qu'ils sont installés sur Terre. Et ils se tirent un petit peu dans les pattes, mais ils se connaissent, ils se connaissent depuis longtemps, depuis la création. Et ils sont bien embêtés parce que ils s'aperçoivent quand même que en fait ils s'éclatent bien dans le monde des humains et qu'ils n'ont pas spécialement envie que ce monde se retrouve détruit par l'apocalypse. Et donc ils vont se lancer dans une espèce de course-poursuite contre l'apocalypse, et ça va consister à essayer de rendre le fils du diable, Damien, gentil. Je raconte pas la misère, quoi. Voilà, et donc imaginez un petit peu les Clark Kent qui recueillent Satan. Les Kent, pas Clark. Clark est leur fils. Et voilà, vous aurez une idée du bouquin. Et donc, c'est Pratchett et Gaiman. Et donc, c'est pas du tout sinistre. Au contraire, c'est vraiment très très drôle. Je vous le recommande. Donc, Terry Pratchett, Gaiman, De bons présages. Ça a été fait en série aussi.
Série télé excellente.
Et série télé excellente. Donc, n'hésitez pas, l'une ou l'autre, ce sera très bien.
Garez vos pieds, garez vos fesses, garez tout ce que vous possédez. Et je vous fais bien la promesse que belle vous l'aurez échappé. Car je sens venir la serpente aux tout petits yeux. La serpente qui se vante de tout faire mieux. En un mot, d'être le bon Dieu. Ayant très tôt eu la malchance de la connaître d'assez près, experte au jeu de malipense, mais pourvue de quelques attraits, je l'ai vu grandir la serpente, j'ai vu briller ses petits yeux, à l'âge où les filles se vantent de tout faire mieux, elle était déjà le bon Dieu. À l'âge où les filles se disent qu'elles ont bien le temps d'y penser, elles plongeaient tête comprise dans des histoires insensées. Et depuis ce temps, la serpente, n'en croyant pas ses petits yeux, ne sait toujours pas qui la hante, pensant bien un peu n'être pas toujours le bon Dieu. Le hasard ayant la main lourde, je la retrouvais sous mes pieds. Voyez un peu comme on est gourde, je la crus douée d'amitié. Mais je vis bientôt la serpente, froid au cœur mais pas aux yeux, me déchirer, me mettre en vente, me traiter pas mieux que s'il n'y avait pas de bon Dieu. L'ayant jetée comme une pieuvre, je vis quelqu'un la ramasser. Elle continua son œuvre jusqu'à ce qu'on en eût assez. On se repassa la serpente comme s'il ne valait pas mieux. Telle une chose malfaisante, lui ôter un peu l'envie de jouer au bon Dieu. Elle est toujours là, qui rôde entre médisance et whisky, pour un peu d'aventure en fraude, roulant avec n'importe qui. J'ai fait cette chanson méchante, rien que pour me distraire un peu. Mais je crois que pour la serpente, ça ne va pas mieux, si vraiment il y a un bon Dieu. Garez vos pieds, garez vos miches, garez tout ce qui vaut le coup. Elle va mourir et je m'en fiche, chez moi ça va pas mal, et vous? Car je l'ai revue, la serpente, avec des poches sous les yeux, encore plus laide que méchante, et ça n'est pas peu, et ça me fait plaisir, bon Dieu.
Oui, Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir sur ce marathon des livres littéraires. Donc vous avez sûrement reconnu Anne Sylvestre avec La Serpente. La Serpente, parce que je vais vous parler d'une autre serpente, mais vachement plus sympathique que celle de la chanson. C'est un bouquin de Vonda McIntyre qui s'appelle Le Serpent du Rêve, qui a été écrit en 76, publié en 76. En France, je ne sais pas trop à quelle date. Vonda McIntyre, il y a le lien avec Ursula Le Guin puisque c'était une de ses élèves, et effectivement dans l'écriture ça se ressent, et dans l'univers aussi, dans la chaleur, l'intelligence, la douceur, la finesse qu'on peut retrouver chez Ursula Le Guin. Donc Le Serpent du Rêve de Vonda McIntyre, c'est une guérisseuse qui s'appelle Serpent. Voilà, et elle a des serpents pour guérir les gens qu'elle croise, c'est sa mission. C'est dans un monde un peu post-apocalyptique, peut-être une terre un peu plus tard, mais c'est pas précisé. Et elle fait des rencontres, elle a des aventures, c'est toujours très très humain, très... très 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 doux, très chaleureux. C'est pas du tout, comme disait Michel tout à l'heure, hein, on n'est pas dans l'épique, hein, on est dans les rencontres humaines avec des gens qu'on a envie de rencontrer en vrai. Voilà, donc c'est fin, c'est joli, c'est très bien écrit. Vonda McIntyre, Le Serpent du Rêve. Voilà.
Bonsoir, vous êtes donc sur Radio Libertaire et c'est Jeudi Noir, donc sur 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité.
Et maintenant, on voudrait vous parler donc d'une autrice qui nous est chère aussi, après ce petit morceau d'un autre groupe qu'on aime beaucoup, Trashley, une autrice afro-américaine, donc qui se fait appeler NK, donc Nora Jamieson. Et c'est un livre qui a été traduit récemment, qui s'appelle La Terre fracturée, qui est en 3 volumes. Et qui est introduit par un exergue assez joli et qu'on ne peut comprendre en réalité qu'après avoir lu quasiment les... Quoique non, le premier volume suffit pour comprendre l'exergue en partie, mais qui est assez beau et qui pourrait être traduit par « À celles et ceux qui doivent conquérir de haute lutte le respect que n'importe qui d'autre obtient d'office ». Bon, je vous en dis pas plus à ce sujet. Simplement, je souligne l'exergue. Et c'est l'histoire. Alors, par rapport à la science-fiction, il y a quelque chose en France. J'espère que vous autres auditeurs auditrices serez pas là-dedans, mais il y a un peu un mépris pour la science-fiction qui est considérée comme de la littérature de genre. Et littérature de genre, ça veut dire sous-littérature ou littérature de gare. Alors que bon, très très souvent, à mon sens, la littérature fantastique, c'est une littérature qui est difficile d'accès. Et qui est pas du tout quelque chose de mainstream et qu'on lit nécessairement pour se détendre. Et c'est particulièrement vrai de Jamieson, qui écrit des choses qui demandent de l'attention, qui demandent de se plonger dans un livre, dans une histoire et dans un monde où au départ finalement dont les règles nous sont inconnues. Puisque c'est ainsi qu'on pourrait peut-être définir aussi la science-fiction, c'est un monde où les règles de base qui gèrent la vie naturelle et sociale ne marchent plus. Et par exemple, dans cette série de livres, La Terre fracturée, vous avez une des règles de base qui n'est de notre monde, qui n'est pas respectée dans le monde fictif du livre de la série de livres de Jamieson, La Terre fracturée, c'est que vous avez certains individus qui sont capables de contrôler les plaques tectoniques, pour aller vite. Je simplifie parce que c'est plus complexe. Et à partir de là, ces gens-là sont à la fois dangereux et extrêmement importants. Parce qu'ils peuvent produire des catastrophes du type réveiller un volcan sous une ville, mais ils peuvent aussi empêcher des catastrophes. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi ils existent, pourquoi d'autres personnes ont d'autres capacités qui leur permettent d'à peu près contrôler ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe sur cette fichue planète, finalement, où la vie semble absolument atroce, puisque on est toujours en danger, soit d'être tué par la planète, en fait. Et alors, bon, sans spoiler, je peux vous dire que la construction romanesque est absolument brillantissime. Et que si vous avez parfois du mal à rentrer dans les romans, qu'il vous faut que les trois premières pages, si elles ne vous accrochent pas, vous avez du mal, moi je dirais accrochez-vous. Parce que c'est un roman dans lequel il faut du temps pour rentrer. Mais une fois qu'on rentre, c'est très très difficile de décrocher. Et en fait, c'est juste des romans qui, une fois que vous êtes dedans, vous font faire des insomnies. Parce que vous avez juste envie de savoir ce qui va se passer. Et avec des twists, comme on dit, des retournements de situation qui sont, pour le coup, pas du tout grossiers, très très bien amenés et qui semblent entièrement logiques une fois qu'ils ont eu lieu. Donc voilà, je fais de la pub absolument éhontée. Donc, NK Jamieson, La Terre fracturée, c'est édité en poche, en français. Allez lire ça. Et en plus, là, il y a un autre de ses bouquins, un autre de ses séries qui va sortir sur New York, qui a l'air génial aussi. Voilà.
Oui, le petit morceau de Trashley en intro s'appelait Season in Hell, une saison en enfer. Et, si vous lisez le livre, vous comprendrez le pourquoi du comment de ce titre.
It's sunny this morning, I stretch out my arms and I watch the white clouds floating by. And the grass is so green and the air is so clear, I feel like I never will die. But those dogs in the sea and they make my eyes sore, dead fish in the river float by. And the sky in this town is so hazy and grey, and I'm starting to see this is why the earth is dying.
Oui, Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous connaissez. Michel n'a pas oublié de dire que Nomizno était le meilleur groupe du monde, mais il a oublié de dire que La Terre fracturée de NK Jemisin était le meilleur roman du monde. Voilà, il faut que ça soit dit. Sinon, on se fait taper dessus. Par NK Jemisin ou quelqu'un de son entourage, je ne sais pas. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était pas Nomizno, c'est Thatcher en acide, un de nos groupes fétiches de jeunesse et de toujours, avec Our Gods Are Falling Down, ce qui veut dire nos dieux ont déchu, je sais pas comment on dit, pour vous présenter un roman d'un auteur français un peu, parce que là on parle pas mal d'anglo-saxon depuis le début, à part Gilles Bertin. Franck Féric, donc un auteur français de notre valeureuse France éternelle. C'est un roman qui s'appelle Le Chant Mortel du Soleil. Alors, comme beaucoup d'auteurs français de fantastique, puisque c'est encore du fantastique, de la fantasy, c'est quelqu'un d'impliqué dans le monde du jeu de rôle, si j'ai bien compris aussi. Voilà, je pense que c'est encore un nerd qui peint des figurines. En tout cas, ça a l'air de quelqu'un de très intéressant, mais il faudrait que je lise d'autres romans pour voir si c'est un auteur intéressante dans l'ensemble, ou si c'est juste ce bouquin qui m'a vraiment marqué, puisque c'est un peu de l'anti-Conan, ou même pas forcément Conan, mais c'est de l'anti-fantasy, épique fantasy, on va dire, puisque là, tout est écrit du point de vue du peuple. Le peuple est très souvent absent des romans épiques. Hein, on parle de batailles entre des rois, des princes cachés, des princesses déchus, des machins comme ça. Et là, non, en fait, ça commence par une petite esclave, voilà, qui échappe à un viol, et qui suit des soldats, des simples guerriers, qui tout ça au milieu d'un événement historique qui s'appellerait l'avalanche, où il y a plusieurs armées qui vont descendre sur la vallée pour détruire les derniers dieux en quels croient encore les gens. Donc il y a un affrontement un peu de la croyance et des athéistes. Donc ça donne un roman vraiment curieux qui aborde énormément de thèmes différents. C'est très très riche. Il y a le souffle épique qui n'est pas du tout dans les individus mais dans le décor. Hein, c'est vraiment des grands espaces avec des grandes chevauchées. Plein de rencontres hyper intéressantes. Tous les persos sont touchants. Et les réflexions sont intéressantes. Vraiment, on n'est pas sur du bête et méchant. Toutes les actions ont une résonance intellectuelle, j'ai envie de dire, en tout cas qui peut faire réfléchir. Et puis le côté guerre contre les dieux peut toucher la corde sensible, la fibre sensible de nos auditeurs et auditrices aussi, parce que c'est fait de manière assez intelligente. Voilà, donc maintenant on va passer à un autre morceau d'un des petits chanteurs à la croix de bois qu'on aime bien.
Another story for the kids. I'm talking Twilight Zone trash now. The tradition of ripple protocols in Black Boy Jungle. Here comes bad news from the underworld. Wow. Sally from the valley, face down in the alley, dead on a summer night. Jerry never flied, had so much to hide. Fag hags burned him with tool and all lights. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news from the underworld. Dreams are cold as rebels grow old. Debbie isn't ready. Hang-ups and steady, dance till the sun comes up. Teddy's falls are super heavy, for bondage he's never ready. Last night at the Gold Cup, he threw up. Yeah, yeah, bad, bad news. Yeah, bad, bad, bad. Broken down boys and the tragedy girls. Rock and roll means nothing, nothing to the soldiers at the Jelly Roll, nothing. They've gone bald up against the wall, a
double gender, sweet surrender. Satan, sleaze, Levi's and grease means mom's burden with the pleasure chest. Gator hogs like wild dogs break all the rules as we pass the dance. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news. Bad news. Bad news.
Bad news
from the underworld. Dreams are cold as all the rebels grow old. Bad, it's bad news. Bad news.
Bad,
bad news.
Bad.
But no news is bad news.
Bad news.
How many of you people got in free tonight? Raise your hands. Oh, there must be a lot of rock critics here. That's bad news anytime. Bad New York rocker, bad slash magazine. You're as old-fashioned as downbeat. The fag hags of the world hate you. And you probably think Jethro Tull invented rock and roll. Something dumb like that. It's bad news. Bad.
Dark. Dark. Dark.
Bad. Dark.
Voilà, vous venez de recevoir donc des mauvaises nouvelles de l'autre monde, ou du monde d'en dessous, de Kim Follet, pareil, une de nos vieilles références qu'on aime toujours beaucoup. Et vous êtes sur Radio Libertaire pour Jeudi Noir, où on fait un marathon du livre avec José. Et voilà, l'autre monde, ou le monde d'en dessous, le monde obscur, c'est celui, l'un de Donald Westlake, dont je voulais vous parler. Donc Westlake, c'est un auteur américain extrêmement prolifique qui a écrit je ne sais trop combien de romans, c'est absolument colossal. Et dans toutes, il a écrit aussi sous pseudo en plus, c'est ce qui rend l'affaire difficile à suivre. Mais il a aussi écrit toute une série qui est publiée donc assez facilement, donc vous trouvez ça chez Rivage, dans la collection noire, dans une petite collection de poche. Et toute une série qui est consacrée à un voleur malchanceux et doué qui s'appelle Dortmunder. Et je pense que je vous en ai déjà parlé dans un marathon du livre précédent, c'est bien possible, parce que moi j'en ai lu beaucoup, et que voilà, si vous avez envie de vous détendre, ça pour le coup, c'est pas comme Jamie Sinn, on n'est pas dans de la grande littérature de genre qui fait réfléchir, et qui nous hante longtemps, c'est plutôt des romans qui se lisent pour se détendre, et puis après vous passez à autre chose, mais en attendant, vous êtes bien détendu, parce que Dortmunder, c'est un mec vraiment pas de bol. C'est toute son histoire. Et chaque fois, donc, il a des plans pour essayer de vivre sa vie honnête de voleur, hein, en volant des gens qui sont riches et le méritent. Et là, dans le roman dont je veux vous parler un petit peu brièvement, qui s'intitule Au pire, qu'est-ce qu'on risque, qui est une des devises de Dortmunder avant quasiment chaque catastrophe qui va enclencher. Dortmunder, donc, a un bon plan pour aller cambrioler une petite maison de riche de société dans laquelle, normalement, il n'y a jamais personne. Et le soir où il y va, pas de bol, le propriétaire de la société, le PDG de la société dans laquelle il passe, le propriétaire de la maison dans laquelle Dortmunder vient pour voler 2-3 bricoles, histoire de mener une vie honnête de voleur, est là avec une de ses maîtresses. Et il arrive à faire arrêter Dortmunder, mais avant de l'arrêter, qu'est-ce que fait ce type, ce riche? Par souci un petit peu sadique, il vole une bague censée être porte-bonheur que Dortmunder a. Et le voleur volé devient furieux. Parce que, comment ça? Lui, voler un honnête voleur? Mais quelle horreur! Et donc, pour se venger, Dortmunder va partir à la recherche de sa bague et va se mettre à cambrioler à peu près toutes les baraques qui appartiennent à ce PDG. Et il arrive à embringuer avec lui tout un tas d'autres honnêtes voleurs qui trouvent que, quand même, c'est scandaleux. À la limite, je vous dirais Westlake. Vous prenez à peu près n'importe lequel. Vous voyez, c'est à Dortmunder dans le truc et vous y allez. Et vous allez bien rire.
fait sortir, il fait descendre un ton plus bas. Hein.
Radio Libertaire 89.4, toujours Jeudi Noir, le marathon du livre. On va vous essayer de vous parler d'un maximum de livres encore pour le petit quart d'heure qui nous reste. Donc là, on vient d'écouter à nouveau Trashley, nos copains de Trashley avec Magic Monster, le monstre magique. Alors, il y a beaucoup d'anglo-saxons, là. Il y a de l'américain et de l'anglais, beaucoup dans les bouquins comme dans la musique. Et bah, il se trouve que c'est ce qu'on a lu en ce moment qui nous a le plus épaté. Et là, bah, c'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps, qui m'a laissé un souvenir, une sensation de souvenir assez agréable et un peu dérangeante aussi. C'est Sean Hamill. L'auteur, c'est Sean Hamill, pas Sean le mouton, mais Sean Hamill. Sean of the Dead, Sean Citron. Ah. Et le bouquin, c'est une cosmologie de monstres, Cosmology of Monsters. D'où le rapport avec Trashley, Magic Monsters, parce qu'il y a de la magie aussi. Alors au départ, ça commence comme un bouquin, on dirait un peu du Stephen King, du bon Stephen King, le meilleur Stephen King, quand il arrive à décrire une famille américaine basique, avec des petites choses, des rapports entre eux, qui sont des rapports humains, intéressants, et puis avec des petites choses qui déconnent de temps en temps, des petits dysfonctionnements comme ça, pas grand chose, et ça peut durer assez longtemps comme ça. Là, ça dure pas si longtemps que ça, puisque le fantastique et l'horreur arrivent dans le livre. Alors ça va jusqu'à l'horreur, mais c'est très fin, parce que c'est de l'horreur qui est pas forcément du gore, mais c'est plutôt de l'horreur qu'on trouverait dans moi, ça m'a fait penser à Max et les Maxi-Monstres, si vous voyez ce livre pour jeunesse avec des gros nounours, mais qui sont curieux, qui mettent quand même un peu mal à l'aise. Hein. Malaisant, comme on dit de nos jours chez les Jones. Je sais pas si vous avez vu le film même qui reprend Max et les Maxi-Monstres, ça reprend cette ambiance un peu curieuse, un peu qui met mal à l'aise, mais en même temps qui fait du bien. C'est très curieux comme sentiment. Bah, ce bouquin-là de Sean Hamill, Une cosmologie de monstres, reprend un petit peu cette ambiance. Et tout ça avec un sous-tendu par un peu du Lovecraft. Il y a du Lovecraft, il y a du monstre qui arrive des profondeurs. Il y a une espèce de danger qui est un peu toujours là. On ne sait pas comment ça va barrer, quoi. Et ça part dans des histoires, là je ne peux pas vous spoiler, parce que ça part dans de l'inattendu total. Et un univers complètement à part, qui fait que c'est un des quelques bouquins qui aura marqué ma pauvre mémoire, qui est plus, j'ai pas une cervelle, mais j'ai comme de la sauce blanche, spéciale dédicace à Pedro de l'émission d'avant. Et voilà, donc Sean Hamill, Une cosmologie de monstres, et puis ben, on va vous passer maintenant un petit peu de chansons françaises.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir donc, comme je vous le disais, pour un marathon du livre, à cause de Jean-Mathias qui est absent pour des raisons inavouables. Et là je voulais vous parler d'une autrice américaine encore, qui pourrait être prise, comme José l'a fait, en des temps d'errance, pour une autrice purement mainstream. Parce qu'elle a écrit des romans qui sont effectivement très très connus et qu'on trouve un peu partout. Elle s'appelle Robin Hobb, H-O-2-B. Et pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la SF, vous avez peut-être justement entendu parler d'une saga, il n'y a pas d'autre mot pour l'écrire, qui s'appelle L'Assassin Royal, qui a été édité un peu n'importe comment en français. Donc renseignez-vous sur l'ordre des livres si vous voulez vous plonger là-dedans. Alors c'est tout un monde. C'est gigantesque, hein. C'est des dizaines, c'est des dizaines de volumes, quoi. Donc, il faut avoir envie de lire de grands trucs, mais vous avez déjà une bonne base avec ce qu'on appelle l'Assassin Royal. Ça va faire 13 ou 14 petits volumes de poche, une paille. Moi, c'est quelque chose qui me laisse un peu, ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, c'est le genre de roman dans lequel je plonge et je sors 13 volumes plus tard en me disant, ah, il y a des défauts, mais en même temps j'ai quand même lu les 13 volumes avant. Je vous dirais, moi, ce qui me gêne, c'est les méchants. Je les trouve un petit peu trop méchants. C'est un peu des méchants ridicules, quoi. Ils sont trop méchants pour réussir à être méchants.
Par rapport aux méchants qu'on a en ce moment.
Par exemple, qui sont réfléchis, qui sont. Ah, en fait, non. Ça marche. Hein. Il arrive que les méchants soient vraiment stupides et méchants, et qu'ils soient tellement méchants qu'ils vont même tuer leurs subordonnés, par exemple, pour un échec mineur. Mais donc dans l'Assassin Royal, vous avez l'histoire d'un jeune homme qui est un bâtard d'aristocratie et qui va, du fait de son statut de bâtard, assumer la fonction d'espion et d'assassin pour le roi qui est en place. Et donc au début, on se dit « Ah, c'est quelqu'un qui fait d'affreuses méchancetés ». Mais non, c'est un cœur noble et pur qui va se retrouver pris dans des intrigues qui le dépassent et qui va essayer de sauver sa peau, mais pas seulement, de sauver aussi les gens qu'il aime. Ça se lit vraiment super bien. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc renseignez-vous un petit peu sur la suite des romans parce que sinon vous comprendrez rien, parce que c'est gigantesque. Mais si vous aimez les sagas, justement les sagas gigantesques qui déploient des univers et qui déploient des arcs narratifs très très longs avec plusieurs générations de personnages, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Vous allez vous éclater.
Voilà. Et en tant que meilleur DJ du monde, bien sûr, j'avais choisi le morceau Le Fils du Roi par Mama Bea Tekielski, que vous avez certainement reconnu. Oui, alors là, je commence un morceau, mais je vais le relancer après parce que vu l'heure qu'il est. C'est un morceau de Cyclic Quitos qui s'appelle Injection Salamandre. Et je le mettrai juste après avoir chroniqué vite fait le bouquin. Alors vite fait, c'est un peu dommage parce que c'est un bouquin de Karel Čapek. C'est du tchèque. J'espère que Čapek se prononce bien Čapek. La guerre des salamandres. Donc c'est un bouquin qui a été écrit en 1935, traduit en français vers 1960. C'est une sorte de satire science-fiction politique. Donc c'est dans les années 30, hein, entre deux guerres. Čapek voit la montée du nazisme et écrit un roman où... De super chelou, de fantastique, où des marins tombent sur des salamandres géantes, donc qu'ils esclavagisent, qu'ils traitent comme des sous-êtres simplement, mais en fait ces salamandres géantes apprennent très vite et sont très 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 intelligentes et vont essayer de prendre le pouvoir finalement et de monter une société
dictatorial, voilà. Donc je vous raconte pas tout, mais c'est très très étonnant comme ton. C'est à la fois hyper drôle. Ça parle du racisme, du capitalisme, du pouvoir, de l'écologie. Alors sans, ça tombe quand même dans les travers de racisme et de choses un peu bizarres. Hein, c'est quand même 1935, d'antisémitisme, tout ça. Il y a un petit peu, hein, ça fleure un petit peu tout ça, comme beaucoup de littérature de l'époque. Et je parle pas de la nôtre, hein, qui est pourtant il y aurait de quoi redire. Il y a Karel Čapek, La guerre des salamandres, un bouquin qui est peut-être un tournant dans la littérature européenne, pardon, fantastique, par son côté politique et satirique. Voilà. Donc, je relance le morceau Injection Salamandre par les excellents Cyclicuitos, et puis on vous dit à dans deux semaines, j'espère, en tout cas, pour je ne sais pas quoi. Michel, un message ?
Peut-être un marathon du livre. We'll be right back.
Ses bras sont des pattes de migale. La scène a fait